Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan ce soir dans le débat du jour sur la situation des Rohingyas ou Rohingyas, on peut dire les deux, en Birmanie. Nations Unies et ONG dénoncent depuis des années maintenant les persécutions subies par cette minorité musulmane qui vit essentiellement dans l'Arakan, à la frontière du Bangladesh. Les Rohingyas sont de plus en plus nombreux à fuir la Birmanie où 90% de la population est aujourd'hui bouddhiste. En quelques semaines, 65 000 hommes, femmes, enfants ont quitté le pays, et ils sont nombreux, vous l'avez peut-être lu dans la presse, entendu sur RFI, à décrire les exactions de l'armée birmane. On parle de viols collectifs, de meurtres, de tortures, accusés de génocide, de nettoyage ethnique, de persécutions religieuses. Le gouvernement a fini par lancer une commission chargée d'étudier les allégations, mais il répond que ces accusations sont montées de toutes pièces et parle d'un mouvement armé Rohingya. Un gouvernement birman dirigé de facto par une figure que vous connaissez bien, Aung San Suu Kyi, héroïne du combat démocratique dans son pays, prix Nobel de la paix, mais très silencieuse, trop peut-être, sur ce dossier. Aung San Suu Kyi face aux Rohingyas, indifférence ou impuissance, c'est notre thème du jour, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Bénédicte Braque de la Perrière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ethnologue, spécialiste de la Birmanie, chercheuse au CNRS. En face de vous pour en discuter, en débattre, Camille Cuisset, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinatrice d'Info Birmanie, qui est donc un site qui traite de l'information en Birmanie. Alors Camille Cuisset, comment vous expliquez, vous analysez, vous lisez le positionnement actuel d'Aung San Suu Kyi sur le dossier des Rohingyas? C'est de l'impuissance, c'est de l'indifférence, c'est un peu des deux?
Alors nous, on pense que c'est un peu des deux. Impuissance dans le sens où en Birmanie, depuis les élections en novembre 2015, où la Ligue nationale pour la démocratie a remporté ses élections et est entrée en fonction en avril 2016.
Donc le parti d'Aung San Suu Kyi.
Voilà, le parti d'Aung San Suu Kyi. Il est entré en fonction en avril 2016 et elle doit composer avec l'armée birmane qui contrôle toujours trois ministères importants, notamment sur les questions de sécurité. Donc c'est le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère des Frontières, et dont il y a toujours 25% de militaires au sein du Parlement en Birmanie. Donc le parti de la Ligue nationale pour la démocratie, qui est le gouvernement civil, doit composer avec les militaires. Et sur les questions de sécurité, il a un pouvoir décisionnel qui est nul. On le voit aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans l'état d'Arakan, hein, et avec toutes ces évolutions. Depuis 3 mois, la zone est fermée. Donc, dans un sens, oui, c'est de l'impuissance. Mais on attendait d'Aung San Suu Kyi, un prix Nobel de la paix qui a combattu pour la défense des droits de l'homme pendant des années, qu'elle prenne au moins position. Là où on pense qu'elle a échoué, c'est qu'elle n'a pas pris position, qu'il y a toujours une zone qui est fermée, notamment aux organisations humanitaires. Et pire, les paroles du gouvernement civil qui nient complètement les violations des droits de l'homme. Finalement légitime en un sens la présence de l'armée au sein du gouvernement.
Donc vous êtes plutôt très très sévère pour Aung San Suu Kyi. Bénédicte Braque de la Perrière, est-ce que vous avez la même analyse? Est-ce que c'est effectivement de l'impuissance au sens où cette dirigeante est otage d'un système qui n'a pas encore complètement évolué vers une démocratie à 100%, ou est-ce que vous dites aussi c'est un échec parce que c'est de l'indifférence, ça s'explique par une forme de racisme aussi?
L'absence de prise de position d'Aung San Suu Kyi est effectivement frappante. Elle est frappante, mais pas si étonnante que ça quand on connaît la situation à la fois de l'opinion publique et ce que vous rappeliez, donc la forme de gouvernement actuel, qui est un gouvernement effectivement où la présence des militaires est toujours là et où Aung San Suu Kyi doit composer avec eux. Alors, par ailleurs, il y a la question de l'opinion birmane. Et comme vous le savez sans doute aussi, avec la démocratisation et en même temps que se développer cette crise intercommunautaire entre bouddhistes et musulmans, donc à partir de 2012, mars, et des premiers incidents en Arakan, on a eu un contre-coup dans la Birmanie centrale avec les incidents de qui ont commencé en mars 2013, violents, contre les musulmans. Et,
mais alors comment ça s'explique? C'est du racisme? C'est le fait qu'ils soient musulmans et que le pays soit majorité bouddhiste?
Oui, bien sûr. Dire que c'est du racisme n'explique pas la chose, à mon avis. Il y a des préjugés contre les musulmans qui sont très anciens, plus exactement contre les Indiens. Les Birmans ont la sensation d'être envahis par les Indiens. Et à la suite de ce mouvement de cette crise anti-musulmane qui a commencé en 2013, il y a eu la mise en place d'un mouvement orchestré par les moines nationalistes bouddhiques qu'on appelle Mabata, qui a pris une ampleur énorme et contre lesquels, parce qu'on ne peut pas parler contre les moines en Birmanie, contre lesquels on ne peut rien faire. Opposer et de critique.
Est-ce qu'il y a cette même intolérance à l'égard d'autres minorités religieuses, parce qu'il y en a d'autres en Birmanie?
Absolument. Il y a des chrétiens, il y a des, enfin notamment des chrétiens, des hindous aussi. Le cardinal Bo, qui a été nommé cardinal l'an dernier, est devenu une figure éminente en Birmanie très rapidement, disait récemment qu'il fallait s'attendre à ce que la même chose se développe pour au moins les chrétiens. Effectivement, c'est des choses qu'on peut craindre.
Alors, il y a un autre argument qu'on entend aussi pour tenter d'expliquer, hein, pas de cautionner, mais d'expliquer cette attitude, cette prudence, enfin cette attitude d'Aung San Suu Kyi, c'est la notion un petit peu de réel politique. Elle a besoin de garder le soutien finalement de cette base qui est à majorité, alors islamophobe, raciste, en tout cas intolérante à l'égard des musulmans. Est-ce que ça, c'est une analyse qui vous semble être probante, Camille Cuisset?
Effectivement, Aung San Suu Kyi, c'est une femme politique avant d'être une activiste, donc elle en avait pas parlé. La question Rohingya, elle l'a pas abordée pendant sa campagne électorale, et aujourd'hui, la question reste problématique. C'est difficile à aborder en Birmanie, donc finalement, oui, c'est aussi la popularité. Mais en pleine transition démocratique, il faut faire. Enfin, oui, Aung San Suu Kyi essaye aussi de composer avec les militaires pour mettre en place des réformes de fond. La réconciliation nationale, donc, entre l'armée birmane et le gouvernement civil, c'est l'une des priorités de ce gouvernement pour la transition démocratique. Mais pour une réelle transition démocratique, il faut aussi la protection de toutes les minorités du pays, la reconnaissance de la citoyenneté des Rohingyas et une véritable lutte contre les discours de haine.
Qui aujourd'hui, on peut le dire, effectivement, les Rohingyas sont considérés comme sont apatrides, ils ont aucun droit civique. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte Braque de la Perrière, de cette question, la réelle politique aussi comme facteur d'explication, garder un soutien populaire, ça vous semble intéressant comme explication?
Il faut effectivement qu'elle garde le soutien de la population. Elle peut pas s'en passer. C'est un régime démocratique. Et par ailleurs, il y a en même temps cette situation extrêmement complexe des Rohingyas qui fait que la situation est quand même difficile à traiter. Elle est ancienne. Elle est inscrite de longue date, et ce statut d'apatride des Rohingyas date de 1982, mais il fait suite à des séries de crises qui ont abouti à la loi sur les nationalités de 1982, qui refuse en fait la citoyenneté aux musulmans d'Arakan.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit quand même qu'elle serait sensible finalement à cette opinion publique, qui serait pas prête à des évolutions dont vous nous parlez, et en même temps, elle écoute pas du tout les voix à l'international qui se font de plus en plus nombreuses. Il y a, je crois, 4 prix Nobel comme elle qui se sont élevés, qui ont demandé aux Nations Unies de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on sait de la figure, de la personnalité d'Aung San Suu Kyi? Est-ce qu'elle écouterait ces prix Nobel, ou est-ce qu'elle est juste prisonnière et elle ne le peut pas? Camille Cuisset, c'est difficile, je vous demande peut-être un petit peu d'imaginer, mais peut-être avez-vous rencontré Aung San Suu Kyi, parce que...
Je l'ai pas rencontré personnellement, mais du coup, oui, c'était 11 prix Nobel qui l'ont appelé à réagir. Et effectivement, en fait, c'est un peu des deux. À la fois, elle est prisonnière, à la fois, elle essaye de répondre quand elle y est obligée. On l'a vu à la suite de la vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux et qui a montré les abus des militaires directement. Elle a dû répondre à ce qu'il s'est passé, et donc 8 policiers ont été arrêtés. Mais le lendemain, la commission d'enquête nationale a statué que il n'y avait pas de preuves suffisantes pour confirmer les allégations de violation des droits de l'homme. Donc on est un peu dans un entre-deux où elle fait avec, elle répond quand elle le doit, et effectivement elle n'a pas toutes les libertés car elle doit vraiment composer avec l'armée, mais elle pourrait au moins prendre des positions. Et une chose qui nous on demande en tant qu'organisation de la société civile et que les organisations locales demandent aussi, c'est quand même l'ouverture de l'accès humanitaire, parce qu'il y a encore des zones, notamment où il y a les communautés les plus affectées au nord de Mangdo, qui sont fermées à l'accès humanitaire et aux médias, et les Rohingyas vivent dans des situations extrêmement difficiles aujourd'hui.
Alors on va écouter dans un instant un petit extrait justement de cette fameuse vidéo. Je voulais juste vous faire réagir là-dessus, Bénédicte Braque de la Perrière. Est-ce que on entend ces voix, ces 11 prix Nobel de la paix? Est-ce que les Birmans lisent dans la presse ça, puisqu'on sait que la censure a été levée, hein, la presse birmane aujourd'hui est très libre. Est-ce que ça se lit aujourd'hui dans les journaux birmans?
Je ne crois pas. Pas vraiment. Mais je dois dire que là, j'étais pas en Birmanie, donc j'ai pas eu la presse birmane à disposition. Ça fait partie de toutes ces voix qui viennent de l'extérieur et qui sont perçues comme des ingérences, hein, il faut bien le dire.
Mais qui ont aussi soutenu pendant longtemps les revendications de démocratisation du pays. Oui. Donc ce sera un petit peu à double tranchant. Oui. On va écouter un tout petit extrait de cette vidéo, justement. Voilà, alors l'extrait n'est peut-être pas très, très parlant, je vais vous expliquer. C'est donc cette fameuse vidéo qui a commencé à tourner à la fin du mois d'octobre, puis au mois de novembre, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On y voit des militaires de l'armée birmane s'en prendre physiquement avec un bâton, vous avez peut-être entendu, s'en prendre physiquement donc à des villageois Rohingyas. Une vidéo qui a suscité une réaction du gouvernement birman, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, Camille Cuisset. Comment est-ce que vous analysez ça, Bénédicte Braque de la Perrière? Est-ce que c'est quand même un tournant qui a eu une première réponse, alors qu'il y avait longtemps eu un silence sur ces exactions commises, le fait que ces militaires aient été arrêtés? Est-ce que c'est le début d'autre chose, ou bien finalement c'était juste une manière de réagir pour montrer qu'on était sur le coup, si vous me passez l'expression?
Je pense que c'était une manière de réagir. C'est pas tout à fait la première fois. Il y a eu cette réunion des ministres de l'ASEAN, un épido après les manifestations qui ont lieu en Malaisie début novembre, pour justement protester contre le sort qui est réservé aux musulmans d'Arakan. Donc là, elle a été poussée dans ses retranchements, et elle a effectivement accepté de recevoir les ministres de l'ASEAN, mais il n'en est pas sorti grand-chose. Je pense que c'est la même chose, enfin c'est le même cas de figure.
Vous partagez cet avis, Camille Cuisset? C'était finalement un petit geste, mais trop petit?
Oui, je suis assez d'accord. Et effectivement, après cette réunion de l'ASEAN, on a vu que il n'y avait eu aucune suite et qu'ils n'avaient pas été capables de prendre une décision ensemble sur des actions qui pourraient être menées. Donc effectivement.
Alors, il y a une question que je voulais soulever avec vous deux, c'est la difficulté d'avoir des informations directes de ce qui se passe dans cette zone. Vous l'avez dit déjà au cours de cette émission, elle est fermée, il est très très difficile d'y aller, autant les chercheurs que les journalistes, l'accès est aujourd'hui impossible. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la réelle situation des Rohingyas? Comment vivent-ils aujourd'hui? Est-ce que les informations sont fiables finalement?
Bien, c'est très difficile à évaluer. Effectivement, toute la zone nord de l'Arakan est fermée, on n'y a pas accès. Les informations sont celles qui passent par le biais des réseaux sociaux, ces vidéos qui circulent, et ce qu'on commence à savoir qui filtre par les populations, enfin les groupes de Rohingyas qui filtrent, qui émigrent au Bangladesh ou ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas qu'au Bangladesh. Ils témoignent, et je sais que les organisations internationales, l'UN a fait une enquête auprès de ces populations-là, donc on sait certaines choses, mais c'est à vérifier et
Camille Cuisset, comment est-ce que vous, vous travaillez peut-être, puisque vous êtes donc, enfin, racontez-nous comment vous travaillez peut-être sur ce sujet.
Alors pendant longtemps, en fait, on a eu les seules informations qui étaient disponibles, c'était celles de l'armée, puisqu'il y avait que l'armée qui était dans ces zones. Ensuite, il y a suite aux pressions de la communauté internationale, le gouvernement a autorisé la presse à 13 membres bien choisis de la presse à venir pendant 3 jours. C'était un peu une visite accompagnée pour répondre aux pressions, mais il y a quand même des On a des sources quand même, parce qu'il y a des rapports qui ont été publiés. Il y a notamment Amnesty International qui a publié un rapport qui parle de toutes ces exactions de l'armée birmane, hein, donc meurtres, viols, tortures. Et c'est un rapport qui est basé sur des témoignages, qui a fait une enquête de 2 mois, sur des témoignages récupérés au Bangladesh sur des Rohingyas qui ont réussi à traverser la frontière. Ce qui est quand même une organisation reconnue. Il y a d'autres organisations qui ont publié différents rapports. On a des retours des personnes qui travaillent dans ces camps, et du coup c'est des témoignages, et aujourd'hui on peut plus se fier aux témoignages qu'à ce que raconte l'armée birmane sur ce qu'il se passe.
Et Bénédicte Braque de la Perrière, ce qu'on sait aussi, c'est que finalement ça n'est pas la première fois, les exactions, les persécutions à l'égard des Rohingyas ne sont pas nouvelles, elles ne datent pas que de quelques mois.
Absolument pas, non, c'est une histoire ancienne. En fait, le statut des Rohingyas a commencé à se détériorer à partir de l'indépendance, quand ils ont été repoussés dans la partie nord de l'Arakan et un peu cantonnés dans cette région-là, et c'est à ce moment-là qu'ils ont d'ailleurs pris ce nom de Rohingya, revendiqué ce statut de Rohingya parce qu'ils pensaient que ça pourrait leur donner le droit à la citoyenneté en tant que nationalité birmane. Alors ça, c'est le droit de la citoyenneté birmane qui était peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais pour être reconnu comme citoyen birman, il devait faire la preuve qu'ils étaient des originaux de la Birmanie, des nationaux birmans. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce terme de Rohingya qui leur permettait de revendiquer ce statut-là.
Allez-y, je vous en prie.
Donc ils l'ont revendiqué, ils ont fait un vrai travail pour ça et ont obtenu la nationalité donc dans un premier temps, et ça leur a été retiré en 82 quand donc cette fameuse loi sur la nationalité est passée, qui demande à ce que les groupes d'origine étrangère à la Birmanie fassent la preuve de leur présence en Birmanie depuis plusieurs générations pour pouvoir avoir la nationalité. Ça, c'est très difficile à établir en Birmanie vu l'état civil, et donc ça a conduit à la situation qu'on a maintenant.
Alors, je le disais en début d'émission, l'armée dit combattre une insurrection musulmane. Alors, est-ce que là, on a des éléments, et est-ce qu'elle risque pas de se radicaliser avec ce qui se passe en ce moment, Camille Cuisset ? C'est pas la grande question du moment ?
Effectivement, c'est possible, mais du coup, les actes de l'armée continue en cette direction, favorise une radicalisation à un moment. Les attaques du 9 octobre, elles ont été revendiquées par une organisation Rohingya. L'enquête, on ne sait pas trop où elle en est, il y a peu d'informations à ce sujet-là. Et en tout cas, l'armée, en représailles, en a profité pour mener une vaste opération de répression qui dure depuis 3 mois et pour continuer les discriminations qui sont courantes, hein, et comme vous l'avez dit, ne date pas d'hier. Du coup, enfin, c'est vraiment une histoire de continuer de mettre en place ces discriminations.
Vous êtes d'accord sur cette insurrection musulmane ? Finalement, on a peu d'éléments, on ne sait pas trop de qui il s'agit.
On a peu d'éléments, effectivement, ça a circulé, mais c'est une information, encore une fois, de l'armée qui a été relayée par le Bangladesh et le Pakistan, et on a quand même l'impression que c'est un argument qui permet effectivement
de renforcer la position des autorités.
Absolument.
Eh bien, nous resterons là-dessus. Merci beaucoup à vous deux. C'est déjà la fin de ce débat. Merci donc à Bénédicte Braque de la Perrière, ethnologue, spécialiste de la Birmanie. Vous êtes chercheuse au CNRS. En face de vous, Camille Cuisset, coordinatrice d'Info Birmanie. Je donne le site info-birmanie.org. Merci également à Florence Ponce, à Julien Lingue. On se retrouve demain pour un nouveau débat. Nous parlerons de tout autre chose, la presse et les sondages. À demain.